occuper le terrain. Et je vais lire avec vous quelques textes. Alors, c'est un peu plus long comme lecture parce qu'il y a plusieurs textes qui créent un contexte à tout ce qui va être dit. Et la première lecture, c'est un texte qu'on a souvent l'habitude de lire lors des enterrements. Et pourtant, c'est un texte que j'aime beaucoup pour la vie au quotidien. Et c'est dans Hébreux 11, les versets 8 à 16, où il est dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. » Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger, dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, et de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car Abraham attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, son épouse, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Et puis un autre court texte, dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12, Pierre dit, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ces désirs font la guerre en vous. » Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Et puis un autre texte, parce que j'aime toujours bien mêler l'Ancien Testament et avec le Nouveau pour montrer l'unicité de la Bible, dans Genèse 26, le verset 12 à 22, on parle d'Isaac, le fils d'Abraham. Il fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important, son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres, de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque, en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Mais les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Ézec, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles et Isaac le nomma Sitna, ce qui veut dire opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il appela donc Rehoboth, larges espaces. Car dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Et enfin, un dernier texte de 1 Corinthiens, et c'est Paul qui parle en Corinthiens 7, 3 versets. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. En fait, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. car le présent ordre des choses va vers sa fin. Alors, je voudrais vous poser une question un peu plus légère. Le dernier texte était assez fort, donc on va amener notre sujet avec une certaine légèreté. Est-ce que vous aimez le camping? Qui a déjà fait du camping dans sa vie? Ouais, il y en a quand même, voilà, ok. Alors, je n'ai pas les chiffres pour la Belgique, vous savez, en Belgique on est moins amoureux du camping, on sait pourquoi il pleut souvent, donc c'est moins drôle. Mais en France, par exemple, eh bien, le camping c'est la première forme d'hébergement touristique. On ne croirait pas, et la France possède le premier parc de camping d'Europe, et même le deuxième du monde, derrière les États-Unis. Et un Français sur trois, paraît-il, est adepte du camping. Et ça amène 6 millions de campeurs français dans les campings et 2 millions de campeurs étrangers. Voilà, si, pour des chiffres qui n'ont voilà, aucun intérêt, mais c'est juste pour vous planter le sujet. Alors je ne sais pas si bon, vous êtes toujours camping, ceux qui ont levé la main. Moi, j'étais plus quand j'étais jeune, vous voyez. C'est un peu comme vous, je crois. Hein, voilà. Une tendance à l'œil plus vers les gîtes ou les hôtels. Alors, dans notre texte d'Hébreux 11, eh bien, il est parlé de campeurs. Et on parle, dans l'Hébreu, dans le texte, premier texte, on parle longuement du patriarche Abraham, et on parle un peu moins de ses fils, son fils Isaac, et de son petit-fils, un de ses petits-fils, Jacob. Et il faut retourner à la Genèse pour avoir, bien sûr, plus de détails. Mais ces trois hommes qu'on appelait des patriarches, ils ont personnellement reçu de Dieu quelque chose. Ils ont reçu de la bouche de Dieu une alliance qui allait déboucher sur la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le sommet de la promesse qui a été faite au premier patriarche, Abraham. Et ils ont aussi autre chose en commun, c'était des nomades. Alors, ce n'était pas vraiment un choix personnel, parce qu'au départ, Abraham et le père d'Abraham n'étaient pas des nomades. C'est l'appel de Dieu qui les a poussés à être nomades. Alors Abraham, il est parti, nous dit le texte, sans savoir où il allait. Il a suivi son père d'abord, du côté de la Syrie, et puis ils sont descendus vers le pays de Canaan. Isaac, lui, on l'a vu dans notre texte, ben, il a bougé. Et même quand il ne voulait pas bouger, il devait bouger. Il était forcé de bouger, parce qu'il y avait des disputes à répétition avec ses voisins. Et Jacob, on connaît son histoire, hein, c'est une histoire un peu compliquée. Il a fui loin de la terre au moment où ils étaient un peu établis, ben il s'est enfoui, il a menti, il a trompé, il a dû fuir la colère de son frère. Et puis, à la fin de sa vie, il a dû aussi déménager, un peu contre son gré, mais poussé par la famine et aussi par le désir de voir son fils Joseph. Et quand on lit le texte d'Hébreux 11 et la vie de ces hommes, on se rend compte que et le texte nous dit, ils ont séjourné en étranger, dans le pays qui était pourtant promis par Dieu. Ils se sont jamais installés. Ils ont passé toute leur vie sous la tente. Et à bien y réfléchir, et c'est ça qui avait enclenché un peu le pitch de ce message, qu'on dirait aujourd'hui le pitch, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné à faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de matériel? Vous savez, ça nous parle à nous les Belges, on a une brique dans le ventre, donc quelque part on a l'impression que notre vie, une partie de notre vie est réussie quand on a une maison où on peut habiter. Mais eux, ils n'ont même pas pu acheter un terrain, ils avaient juste des terrains de passage ou des pâturages. Ils ont juste une caverne funéraire, nous dit leur histoire, un lieu de sépulture. Et les seuls monuments qu'ils ont construits, c'était des puits, et des autels, c'est-à-dire des monuments de reconnaissance à Dieu. Alors on peut dire, c'est dérisoire. Toute une vie pour cela. Rester des nomades, sans lieu à soi, sans maison, sans la sécurité d'un toit. Alors on pourrait les considérer, nos trois hommes, comme des hommes du passé, si on n'avait pas ces merveilleux textes, bien sûr, du Nouveau Testament, qui nous dit que leur style de vie a laissé une trace que nous sommes invités à suivre dans notre temps, dans notre lieu et dans notre monde à nous. Et même s'ils n'ont pas bâti quelque chose de visible, ils ont fait bien plus, ils ont vécu chaque moment de leur vie dans la foi en Dieu. C'est pour ça qu'on les retrouve dans la galerie des héros de la foi, hein, dans Hébreux 11. Et là où ils étaient, ben, ils ne sont pas contentés d'être inactifs, ils n'étaient pas paralysés par la peur. comme on pourrait l'être, nous, en tant que chrétiens, quand on voit le monde autour de nous. Non, j'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'il a dit Isaac. Il est devenu riche sans que ce soit important pour lui. Abraham, Isaac et Jacob, ils sont devenus riches. Et jamais, jamais, jamais dans le texte, on voit que c'était important pour eux. C'est Dieu qui bénissait et laissait Dieu faire. Et ils ont refusé les attaches de ce monde. Abraham aurait pu choisir d'aller à Sodome, là où, je dirais, la plaine était plus verdoyante. Hein, et il a laissé choisir son neveu Lot avec, je dirais, la sinistre conséquence qu'on sait. Ce sont des hommes qui ont connu des échecs, des failles dans leur vie. C'était en fait trois menteurs. Abraham a menti deux fois hein, par peur qu'on lui prenne sa femme, enfin qu'on lui ôte la vie pour prendre sa femme. Et Isaac, il a vu son père faire ça peut-être et il a fait la même chose. Non, il n'a pas vu son père, c'est pas possible. Il n'est venu qu'après. Mais vous voyez, les gènes du mensonge sont produits chez le fils. Il a fait la même chose avec Rebecca. Et Jacob, lui, c'est ce qu'il a fait pour obtenir, je dirais, la bénédiction de son père. Donc c'est une famille de menteurs, connue des échecs, des failles dans leur vie, mais ils ont occupé le terrain. Ils ont révélé Dieu là où ils se trouvaient. Et quand nous appartenons à Christ, on est passé d'un... c'est l'épître aux Colossiens qui nous dit ça, on est passé d'un royaume déchu au royaume de Dieu. On vit dans ce monde. C'est le royaume déchu. Mais on en attend un autre qui nous est déjà donné. C'est le royaume de Dieu, la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur, nous dit le texte qu'on a lu. Alors aujourd'hui, le nomadisme, quand on en parle, c'est surtout dans les documentaires. Hein, et chez certains groupes sociaux, si vous regardez un documentaire sur la Mongolie ou certaines contrées d'Afrique où il y a des troupeaux à déplacer, on voit seulement encore le nomadisme ou bien par exemple chez les gitans. Mais la Bible nous dit par tous ces auteurs majeurs, on a quand même lu Pierre, on a quand même lu l'auteur aux Hébreux, alors on ne sait pas trop bien qui c'est, peut-être Barnabas, on a lu Paul aussi, que cette pensée d'être des pèlerins et des voyageurs, des nomades, ça doit imprégner nos actes dans le présent et notre vision dans le futur. Dans le futur. Alors, occuper le terrain, c'est quoi? On va juste dresser brièvement quelques points en prenant l'histoire de ces hommes que nous avons partagés. Tout d'abord, occuper le terrain, c'est planter une tente. Planter une tente. Planter une tente, c'est manifester une présence, manifester une bannière, manifester un flambeau. C'est planter une tente de Dieu dans le désert des hommes. Vous savez, le pasteur Egbert, il a écrit quelques livres, et notamment il a écrit un très bon livre qui s'appelle « La tente de Dieu dans le désert des hommes ». C'est le verset 2 du chapitre 60 d'Ésaïe qui dit « Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi ». Alors si vous allez voir ce verset, vous direz, c'est un texte qui parle de l'éclat de Jérusalem, après le retour de Jésus. Mais on sait très bien que Jésus disait la même chose de nous par analogie, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et qui d'entre nous aujourd'hui pourrait ignorer quelles ténèbres couvrent le monde? Et que cette obscurité se densifie davantage? Le monde est complètement fou. Oui. Ça a toujours été un monde déchu, mais il y a une accélération de l'histoire, les dictatures se renforcent, et même les dictatures de la pensée. Vous savez, avant, il y avait les humanistes qui citaient souvent Voltaire. Ils disaient, Voltaire qui avait dit, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis peut-être pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Mais aujourd'hui, la cancel culture, c'est je ne suis pas d'accord avec vous, et je ferai en sorte de vous éradiquer, que vous n'existiez plus. Vous voyez, une sorte d'ensauvagement, c'est des termes dont on parle aujourd'hui. Hein, la moindre personne qui se sent offensée, elle peut lâcher un truc sur Facebook, et puis ouf, il y a un effet, je dirais, de destruction qui démarre. La globalisation n'est pas qu'économique. La globalisation, elle est aussi dans le mal. Elle se répand à une vitesse vraiment très importante. Et je dirais, quand je suis en train de partager au phare des études sur les temps, la fin. Et c'est vrai que, alors, ne croyez pas que je vais vous dire quelque chose, donner un scoop sur des dates ou des choses comme ça. Hein, ça, c'est, vous seriez, vous allez être déçus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit observer effectivement ce qui passe. Cette globalisation est très importante et l'importance du numérique qui va facilement avoir, qui a déjà le contrôle un petit peu sur nos vies. Et puis aussi tout le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique a des enjeux terriblement compliqués au niveau économique, il déplace des populations, il provoque des guerres. Vous voyez, des choses comme ça. Et aussi la situation d'Israël, ces trois éléments-là sont quand même des éléments qu'il faut regarder et considérer comme Jésus l'a fait. Alors, Dieu sait bien que le monde est enténébré, hein, qu'il y a ces temps sauvagement, lui, parce que lui n'a de cesse de vouloir sauver les hommes et les femmes dans ce monde. Et Dieu, de cette évidence d'un monde de ténèbres, il tire une autre évidence, nous sommes placés comme des témoins, des lampes témoins, des lumières, des flambeaux qui portent la parole de vie. Planter une tente. Un auteur, c'est Leslie Biflin, il raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui passe devant un restaurant et voit un petit garçon qui est le nez collé sur la vitre et lui demande « Est-ce que tu as faim ?» Évidemment, le garçon lui dit « Ben oui, monsieur. » Et il fait entrer le garçon et donc il commande un copieux repas, il s'assied avec l'enfant et l'enfant, il est là et il ne montre pas d'intérêt pour la nourriture et regarde toujours vers l'extérieur et dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne manges pas ?» lui dit l'homme « T'as dit que tu avais faim ?» Et le petit garçon répond, vous voyez ce garçon qui regarde par la fenêtre, c'est mon petit frère, comment est-ce que je pourrais manger pendant qu'il me regarde comme cela? Et je pense qu'on a peut-être plus conscience, mais nous avons un accès gratuit au restaurant. Pour nous, c'est open bar. Et je ne parle pas, je dirais, des richesses matérielles, je parle des richesses spirituelles. Toutes les bénédictions, toutes les richesses, toutes les promesses de Dieu nous sont acquises. Et on peut relire 2 Pierre, on peut relire, je dirais, Éphésiens. Tout cela nous est acquis, nous sommes déjà attablés à une table réservée. Et qu'en est-il de ceux qui sont dehors et qui regardent par la fenêtre? Il nous arrive, et c'est une expérience personnelle, bien sûr, qu'on dévore la vie à pleines dents alors que d'autres autour de nous regardent le nez collé à la fenêtre, aimerait bien pouvoir entrer dans cette vie. Et je parle de la vie spirituelle. On peut parfois être tellement préoccupé de sa propre croissance, je dirais de ses propres bénédictions, qu'on oublie qu'il y en a qui attendent, que nous les invitions à partager le repas. Juste avant Ésaïe 60, il y a Ésaïe 59, et Dieu dit dans ce chapitre que la vérité a disparu, et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Moi, ça m'a étonné de lire que Dieu s'en est étonné. On peut impressionner Dieu par notre amour. Et c'est vrai que c'était impressionnant ce matin. Vous savez, j'étais vraiment baigné dans l'amour de Dieu. Dans ce temps de culte, c'était tellement bienfaisant. On peut impressionner Dieu par notre zèle, par notre foi, mais on peut aussi l'étonner par les moments où nous sommes tellement indifférents, hein, ou tellement froids. Alors, on est nomades et voyageurs dans ce monde, oui, mais on va planter une tente, on ne va pas rester invisible, on ne va pas rester insensible. Est-ce qu'il faut, je dirais, une révélation nouvelle, particulière pour se soucier de l'humanité souffrante et perdue sans Dieu? Aujourd'hui, non, cette semaine, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment retourné dans les lectures. C'est Rick Warren qui disait « On n'a pas besoin de nouvelles études bibliques. On n'a peut-être pas besoin de nouveaux messages. On a besoin de sortir et de mettre en pratique. » Et c'est Dwight Moody, vous savez, c'était un grand évangéliste du 19e siècle. On le retrouvera à la fin dans une autre histoire. Il avait l'habitude de parler d'une peinture qui l'avait impressionné. C'était une femme qui saisissait, je ne sais pas si oui, il y a une image peut-être derrière, qui saisissait une croix au moment où on la sauvait dans une mer furieuse. Un jour, il a expliqué que cette peinture avait perdu de son intérêt parce qu'il avait découvert une autre peinture. C'était toujours une femme qui était sauvée de la noyade, qui se cramponnait une croix, mais qui en même temps tirait une autre personne pour la sortir de l'eau. Alors occuper le terrain, c'est ça, c'est manifester notre tente, hein, cette autre présence, celle de Jésus-Christ, Seigneur de nos vies, Sauveur du monde. Et puis occuper le terrain, c'est aussi creuser des puits. On l'a vu, hein, c'est un peu ce qu'Isaac a fait pendant une très grande partie de sa vie. Hein. Et on est dans des temps de grandes difficultés économiques. Hein, ça touche même les pays comme les nôtres. On s'imaginait pas qu'un jour on allait payer aussi cher, je dirais, pour l'énergie. On cherche tous à payer moins, investir mieux, bien sûr, l'immobilier à la cote pour les investisseurs. Et comme je l'ai dit, Isaac, il n'a jamais construit de maison. Il n'a pas bâti des villes, il a simplement construit des puits. Ça nous parle à nous au phare, hein, puisque nous, on a intitulé le puits, je dirais, le lieu de rencontre entre l'Église et la société qu'on a placée dans les villes, dans la ville. Mais en creusant des puits, Isaac n'a pas cherché que sa propre sécurité, son confort personnel. Il n'a pas dit « ça c'est mon puits et je vais installer une gare, je mets des miradors tout autour et les autres n'y toucheront pas ». Il partageait ses puits. Ce sont les autres qui ont dit « eh bien nous on ne partage pas ». Voilà. Isaac avait visiblement un don, en tout cas autour de lui, des personnes qui avaient un don, ils connaissaient les nappes phréatiques. Et vous savez, pour ceux qui sont allés dans des pays, dans la Palestine, dans Israël, la Palestine de l'époque, c'était très important de pouvoir trouver des endroits avec de l'eau. Ils connaissaient des sources et ils partageaient ces sources avec ses voisins. Alors, est-ce qu'il aurait dû leur faire la guerre ? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il y a cette autre histoire qui est un petit peu similaire, ça se passe à l'église de Boaz. Boaz, c'est une ville dans l'Idaho, vous savez, c'est au nord-ouest des États-Unis. Et dans cette ville de Boaz, il y a des forêts tout autour, et il y a, l'église est bâtie à côté d'un ruisseau. Derrière l'église, il y a un bouquet de saules, il y a une pelouse, il y a une petite plage de sable juste devant la rivière. Si vous avez vu le film, et au milieu coule une rivière, c'est à peu près comme ça. Vous imaginez une église installée, l'envie de rester tous les dimanches pour partager un pique-nique. Hein. Et alors il y a un jour, vous savez, les Américains sont toujours tellement en peur, hein, des procès, des conséquences, et il y a un diacre qui a émis des réserves juridiques par rapport au fait que des étrangers de l'église occupaient les lieux et venaient comme ça sur la petite plage au bord de la rivière. Il dit, si quelqu'un se blesse, il va pouvoir intenter un procès à l'église. Et le pasteur n'était pas pour changer les choses, mais contre l'avis du pasteur, cette personne a convaincu l'équipe pastorale de mettre un panneau indiquant qu'il s'agissait d'une propriété privée. Alors le pasteur de l'église, eh bien, il a dû s'exécuter et il a fait réaliser un panneau qui disait « Attention, quiconque fréquente cette plage risque de se retrouver à tout moment entouré de gens qu'il aime. » Voilà, hein, une fois encore la grâce a triomphé de la loi. Des chrétiens ordinaires ont fait la différence en voulant le bien de ceux qui étaient autour d'eux. Comme Isaac, ils ne sont pas entrés dans des querelles, ils ont continué à creuser des puits. Parfois, on pourrait se décourager, est-ce que je vais encore vouloir le bien de la société ? Est-ce que je vais encore creuser un autre puits ? Je suis déçu. Je n'ai pas de résultat, les gens sont contre moi. Non, continuons, continuons, jusqu'à arriver à Rehoboth, dit le texte. Un nom qu'il faut retenir, larges espaces. Ça arrive dans nos vies. Il y a parfois des moments compliqués, mais il y a aussi des larges espaces. Alors, occuper le terrain, autre point, c'est bâtir des hôtels. C'est très important parce que quand vous lisez le livre de la Genèse, à des moments clé, on voit Abraham, Isaac et Jacob qui vont bâtir un hôtel à l'Éternel. Et ça, c'est le bon côté. Vous savez, j'ai parlé du mauvais côté, le fait de copier les mensonges de son père, mais il y a aussi le bon côté, je dirais, copier chez ses parents ce qu'ils font de bien. Et Abraham, Isaac et Jacob, chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit que l'Éternel leur avait indiqué, ils faisaient une halte et ils construisaient un hôtel. Et c'est ainsi qu'Abraham a construit un hôtel à Bethel, à Mamré et au mont Morija. Et le mont Morija, c'est là où a eu lieu, hein, ce qui aurait dû être le sacrifice d'Isaac, c'est exactement le lieu où se trouve l'esplanade du temple à Jérusalem. Vous voyez comme c'était important de bâtir un hôtel là-bas. Alors, on pourrait croire que ces autels, c'est uniquement des signes de reconnaissance parce que Dieu les bénissait. Après tout, c'est normal de dire merci. Mais ce n'était pas que cela. Ces autels étaient aussi le signe que même après la souffrance, ou même quand on était dans la souffrance, notamment au mont Morija où Abraham a été appelé par Dieu à offrir son fils, nous reconnaissons, et ils reconnaissaient, la présence de Dieu et sa providence dans leur vie. Ce n'est pas seulement dire merci quand tout va bien, et puis quand tout va mal, au grommelé, râler, pas content, pourquoi tu ne me bénis plus? C'est continuer continuellement dans sa vie à bâtir des autels malgré les circonstances. Et c'est vrai que je l'ai dit, on n'est pas toujours dans les larges espaces. Les deuils, les maladies, je dirais les déceptions font partie de notre vie. C'est intéressant quand on voit Jacob, quand à la fin de sa vie il se retrouve devant le Pharaon. Et j'ai souvent été étonné par cette phrase. Et quand, je dirais, le Pharaon lui demande comment a été sa vie, hein, c'est un homme d'expérience. Et il dit ceci, Jacob, devant le Pharaon d'Égypte, il dit « Le nombre de mes années de migration est de 130. » Donc, vous voyez, toute sa vie, un migrant. « Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. » Puis Jacob bénit le Pharaon et se retira. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il était aigri ou amer? Non, il reconnaissait simplement que voilà, la vie c'est dur. La vie c'est difficile, et si on vous dit le contraire, on vous ment. Et les héros de la foi, c'est loin d'être des super-héros invincibles, indestructibles, ce sont des femmes qui sont présentées avec toutes leurs faiblesses. C'est dramatique de lire la Bible, c'est choquant. C'est pour ça qu'il y en a qui disent ouais, c'est un livre dur, on ne comprend pas toutes ces guerres, toute cette méchanceté, toute cette violence. Mais parce que c'est un livre qui nous révèle adultères, meurtriers, trompeurs, violents, faibles, incrédules, des pères déçus par leurs enfants, des idolâtres. Bref, des personnes en situation d'échec, comme nous l'avons été ou nous le serons, chacun d'entre nous. Et toutes ces personnes partagent avec nous la force et la faiblesse. Ils sont à la mesure de nos peurs, de nos égoïsmes, mais aussi de notre foi. De notre foi. Ce sont des hommes et des femmes qui sont pris dans les mêmes contradictions, qui ont les mêmes luttes et les mêmes échecs que nous. Mais ce qui est remarquable, et c'est pour ça que ce texte nous parle à nous aujourd'hui, c'est qu'arriver à l'endroit où le Seigneur a voulu pour eux, et cet endroit c'était peut-être la réussite, c'était peut-être l'épreuve, c'était peut-être la santé défaillante, c'était peut-être l'échec à l'école, le découragement, ou le silence de Dieu, arriver à cet endroit-là, toutes ces personnes ont bâti un autel à l'Éternel. Toutes ces personnes ont bâti un autel à l'Éternel. Ils ont considéré chaque situation de leur vie au travers du prisme de la foi. La foi que c'est quand même Dieu qui les conduit là où ils sont, que c'est Dieu qui ne les abandonnera jamais, que c'est toujours Dieu qui veut le meilleur pour eux. Et bâtir un autel, c'est refuser la fausse croyance que la vie chrétienne est facile. Comme disait Dietrich Bonhoeffer, à bon marché. Et accepter de compter sur Dieu pour chaque pas, même lorsque nous sommes tombés. Parce que le suivant peut être avec Dieu. La réussite, elle nous fait bâtir des autels à nous-mêmes. Les échecs nous font bâtir des autels à Dieu. Et comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Sarah, on ne verra pas toujours de nos yeux toutes les promesses s'accomplir. Toutes les promesses que nous vivons, que nous lisons dans notre Bible, nous ne les verrons pas toujours de nos yeux s'accomplir. Mais on peut croire comme Sarah que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. En effet, dit le texte, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Victoire et souffrance. Réponse et silence. Résilience et délivrance. Résilience, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, plus souvent, c'est la capacité d'un individu à supporter psychologiquement les épreuves de la vie. Tout ça, ce sont les doubles faces de la foi. Les doubles faces de la foi. La vie nous apporte la gloire et l'humiliation. Et la foi, c'est cet autel qu'on va construire dans ces deux environnements. Quand on est à Rehoboth, dans les larges espaces, ou quand on est à Ések, déception. Autel, un autre autel. Enfin, occuper le terrain, je termine par ce point, c'est avoir une sépulture comme seul héritage. Le seul lieu fixe que les trois patriarches ont construit, ont acheté sur la terre, c'est étonnant, c'est simplement une sépulture, un tombeau. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Eh bien, parce que nous ne voulons pas du hasard. Et nous ne retournons pas au hasard ou au néant. Ils ne l'ont pas fait pour laisser une trace dans l'histoire. Vous savez, comme François Mitterrand, qui était obsédé à la fin de sa vie à laisser une trace dans l'histoire. Quand on voit par après, ce n'est pas top. Hein ? Non, ils ne cherchaient pas cela parce que le texte nous dit qu'ils avaient le désir de trouver une autre patrie qui était céleste. Mais ils voulaient, je dirais, laisser le souvenir de leur vie pour leurs époux qui étaient restants, puisque la première sépulture, c'était par exemple pour les épouses Abraham et Jacob, hein, qui ont enterré Sarah et Rachel, pour les enfants, pour les voisins. Et même s'ils étaient pèlerins, voyageurs, eh bien, ils voulaient montrer que leur existence, même de passage, assez ancré dans un lieu. Ils avaient planté leur tente, ils avaient mis une sépulture, ils avaient bâti des hôtels et creusé des puits, là. Alors, ils n'ont pas construit de mausolée. Vous savez, si vous allez à Haïfa, hein, sur le mont Carmel, vous n'attendez pas à voir, en tout cas sur la partie qui est face à la mer, ne vous attendez pas à voir beaucoup de représentations d'Élie. Ce que vous allez voir, c'est un immense mausolée, celui du Bab, hein, le fondateur du baïsme, sur le mont Carmel. Alors ça manque un peu de modestie, hein, pour quelqu'un qui était censé être représentant d'une religion qui a unifié toutes les autres. Donc voilà. Mais ces hommes des bronzes ont construit des sépultures. Ils ont réalisé des choses ordinaires pour un Dieu extraordinaire. Et ce sont ces choses ordinaires qui ont fait la différence pour Dieu. Et je vais vous raconter une petite histoire avant la conclusion. C'est l'histoire d'Edward Kimball. On a parlé de Dwight Moody. Dwight Moody est excessivement connu, il y a énormément de citations. Si vous cherchez des citations d'Edward Kimball, vous n'en trouverez pas. Il y a énormément de citations, de messages, de podcasts qui nous sont venus aussi de Billy Graham. Mais écoutez ce qu'il a dit d'Edward Kimball. C'était un moniteur d'école du dimanche de Boston. Et il a rendu l'après-midi une visite à un jeune homme de sa classe d'école du dimanche pour lui parler de Dieu. Il a ressenti le besoin d'y aller. Et ce jour-là, il a conduit au Seigneur un jeune homme qui s'appelait Dwight Moody. Et Moody, c'était le Billy Graham du 19e siècle. Et il a beaucoup influencé un autre homme qui s'appelait Wilbur Chapman, qui est devenu un éminent prédicateur de l'Évangile. Et Chapman, il a recruté Billy Sunday pour ses campagnes d'évangélisation. Et il a fait un travail remarquable, ce Billy Sunday. Et notamment dans la ville de Charlotte. Et dans cette ville de Charlotte, il y a eu un réveil à cause du travail de Billy Sunday. Et donc, ils ont invité un autre prédicateur qui s'appelait Mordecai. Et cet homme, cet évangéliste, a prêché à Charlotte. Et au cours d'une de ces réunions, un jeune homme qui s'appelait Billy Graham a invité Christ comme Seigneur de sa vie et est devenu le plus grand communicateur de l'Évangile du XXe siècle. Si vous trouvez que vous n'avez rien à offrir ou que vous ne laisserez rien comme sépulture, rappelez-vous le moniteur d'école du dimanche, Edward Kimball, qui a donné une après-midi pour parler à un jeune de son église. Ça, c'est l'effet papillon de Dieu, multiplicateur de Dieu. Dieu a une façon bien à lui d'utiliser la fidélité routinière dans les petites choses pour en accomplir de grandes. Alors, on va conclure. Juste un petit rappel, en fait on a parlé de trois hommes du passé, Abraham, Isaac et Jacob, mais en fait on a brossé toute la vie chrétienne, puisque la vie chrétienne c'est occuper le terrain, vous avez bien compris, occuper le terrain c'est planter une tente et ça parle de notre témoignage, c'est creuser des puits et ça parle du service envers notre prochain, c'est, je dirais, bâtir des hôtels, ça veut dire mettre la foi au centre de toutes nos circonstances, même quand elles sont compliquées, et puis aussi, c'est un lieu de sépulture, c'est montrer la fidélité à Dieu dans les choses ordinaires. Tout un programme. Et tout cela en restant pèlerin et voyageurs. Ça veut dire en prenant de la distance avec ce monde. On prend de la distance avec ce monde, mais pas avec les personnes de ce monde. C'est toute la différence. Hein? Je dirais, on peut être pas d'accord avec les idées, bien sûr, mais on peut rechercher et aimer la personne. Que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Occuper le terrain, c'est prendre avec reconnaissance tout ce que Dieu nous donne. L'amour, les relations formidables, la reconnaissance, les réussites, les joies, sans que cela nous pervertisse et devienne un but en soi. Sans que cela nous éloigne de Dieu, sans que cela nous éloigne de notre prochain. Être pèlerin et voyageur, c'est choisir sa patrie. Et c'est important, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire à la fin. On pourra dire, tiens, du côté, ouais, ça me paraît mieux l'hôtel là-bas, côté du ciel, que celui un peu trop chaud de l'autre côté. Et non, c'est quelque chose qu'on fait maintenant. Dans tous les choix que nous faisons au quotidien, nous montrons où est notre patrie, quelle est notre patrie. Et c'est la choisir jour après jour sans avoir la nostalgie du retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le temps est limité, nous dit le texte de Paul. Le présent ordre des choses va vers sa fin. Alors pensons à bien gérer notre occupation du terrain. Je termine par cette citation, la dernière citation de George MacDonald, un romancier de la vie écossaise, un poète et auteur d'allégories chrétiennes, qui parle du pèlerinage de l'homme vers Dieu. Vous voyez, c'est très en connexion avec notre sujet. Il a dit « Qui possède le ciel et la terre ? Celui qui a 1000 maisons ou celui qui, sans avoir aucune maison, qui lui appartiennent, en a 10, à la porte desquelles ces coups de sonnette vont susciter la jubilation instantanée. Amen.